RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de RMC pour cette émission consacrée au sport mécanique. Vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches et ça n'est pas fin, d'autant que le programme est extrêmement dense aujourd'hui avec l'arrivée du rallye Monte-Carlo, du rallye de Monte-Carlo. On va y aller, peut-être un nouveau triomphe pour Ogier et Ingrassia pour bien débuter l'année après leur cinquième titre de champion du monde. Et puis, on reviendra sur le Dakar avec Cyril Després qui l'a déjà remporté à plusieurs reprises, mais c'était à moto, vous le savez, il était pilote Peugeot. Et puis, on parlera de l'enduro du Touquet qui s'élance sur les plages nordique avec 1100 motards et on terminera évidemment avec peut-être les impressions justement de Sébastien Ogier. Mais tout de suite, il y aura Benoît Boutron également pour parler évidemment de Radio Paddock. Salut Benoît, il est déjà
salut
avec
Jean-Luc,
moi.
Salut à tous.
Et on a un bon programme, vous allez le voir, on a quelques beaux sujets dont
exactement.
On va discuter. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, on fait un saut du côté de la section paloise face au Stade Français avec Laurent Depré. Je crois que la section paloise leur met une rouste, Laurent. Salut.
Ouais, salut Jean-Luc, effectivement, une déculottée, des adieux triste pour la dernière de Greg Cooper, appelé à rentrer chez lui en Nouvelle-Zélande, hein, le coach parisien pour les gros problèmes familiaux. 26-0, 4 essais à rien pour la section paloise qui est en train de réussir sa mission commando. Super ce que font les hommes coachés par Simon Mannix. Essais de Stanley, Mallier, Mowen, Vautou et 26-0 sans aucune réponse de la part de Parisiens qui font beaucoup trop de fautes et finalement donnent le bâton pour se faire battre. La section ne demande pas tant et on profite. 26-0, il reste 7 minutes à jouer en première période.
Merci beaucoup Laurent, on te retrouve naturellement tout à l'heure probablement à la mi-temps pour évoquer le score entre le Stade Français et la section paloise. Mais je vous l'ai dit tout de suite, le sommaire de cette émission motor, c'est très chargé, on va beaucoup voyager, je vous préviens avant, on va d'abord partir dans le sud de la France, ou plus exactement autour de la Principauté de Monaco. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le rallye de Monte-Carlo, vous le savez, qui se déroule là-bas du 22 au 28 janvier. Et la belle nouvelle, on va retrouver Lucas Vinoy, l'envoyé spécial de RMC sur place. La belle nouvelle, eh bien, c'est qu'un équipage français est en tête. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Alors oui,
hein. en effet, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui sont en route vers une cinquième victoire d'affilée en Principauté. Ce serait la sixième. Il faut concrétiser. Il reste encore quelques kilomètres à parcourir dans la Power Stage et ce sera donc la sixième victoire pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia à Monte Carlo.
Et ce serait absolument fabuleux. On en reparle un petit peu plus loin. Alors tu as rencontré pas mal des acteurs évidemment principaux avant le départ ou en cours d'épreuve. On va écouter justement ce que te disait Sébastien Ogier, sa réaction. Lui qui a pris les commandes en fait de ce rallye dès le premier jour, ce qui n'était pas évidemment évident. On attendait de savoir quel allait être le niveau de performance de ses principaux opposants. On va y venir. On écoute tout d'abord à ton micro Sébastien Ogier à propos de son objectif et de l'avance qu'il avait déjà commencé à construire.
L'objectif ce matin, c'était d'augmenter un petit peu notre avance et je me disais que si j'arrivais à construire une avance de 30 secondes, ça serait pas mal pour envisager la fin du rallye. Dans la première, on réussit un bon coup en augmentant énormément notre avance. Après, par la suite, ça a été un petit peu plus compliqué pour nous toute la journée. Mais c'est toujours difficile de gérer dans ces conditions-là. Et bon, c'est jamais mon style de prendre des risques quand j'en ai pas besoin. Donc j'ai lâché pas mal de secondes sur la deuxième partie de la journée. Mais bon, dans l'ensemble, l'objectif est quand même rempli puisqu'on a 33 secondes ce soir.
Et oui, 33 secondes ce soir. Et Ogier, il comptait 46 secondes d'avance, Lucas, il y a peu, avant, je crois, la dernière super spéciale, hein, qui est une formalité normalement. Donc, a priori, on ne voit pas comment Ott Tanak serait en mesure de revenir sur lui.
Un petit peu plus même, hein, puisqu'il avait 57 secondes 9, très exactement, après la 16e spéciale. Donc oui, une grosse avance pour Sébastien Ogier. Après, ce qui peut le pousser à la faute, c'est de vouloir aller chercher les fameux 5 points de la Power Stage en cas de victoire. On sait que la Power Stage est une spéciale un petit peu particulière. Les 5 premiers de cette spéciale marquent des points, 5, 4, 3, 2, 1. Ça peut avoir une incidence importante au championnat. Alors Ogier, il est entre deux chaises. Il faut attaquer, mais d'un côté, il faut conserver la place de leader au classement général. Pas facile de faire un choix.
Oui, pas facile de faire un choix, mais on peut lui faire confiance quand même au quintuple champion du monde des rallyes qui démarre très très bien, on l'a dit. Il a dû jouer avec les conditions météorologiques dans ce rallye de Monte-Carlo, c'est traditionnel. Hein. Il y a une alternance évidemment de glace, c'est parti d'ailleurs très fort dès la première spéciale. Et puis il peut y avoir de la neige, il peut y avoir des routes sèches et c'est là qu'on abîme les pneus. On va écouter à ton micro toujours, Lucas, ce que t'avais dit Sébastien Ogier sur ces conditions qui prévalent dans le cadre de ce rallye de Monte-Carlo.
Ça devrait se simplifier maintenant, il risque de faire froid quand même, donc il y a peut-être encore le doute quand même d'avoir peut-être des conditions un peu piégeuses le premier tour dans le Turini.
Et oui, le Turini, c'est la grande spéciale. Il y a tout un tas d'endroits mythiques, hein, Lucas. Si je ne me trompe pas, ça devait être ton premier rallye de Monte-Carlo en tant qu'envoyé spécial. J'imagine que
exactement,
tu t'es
ouais.
régalé.
Ouais, c'était en effet un très très beau rallye et puis Sébastien Ogier a montré encore toute l'étendue de son talent dès la première spéciale, c'était jeudi soir. Il est quand même parti à la faute, hein. Il a fait une petite faute, il a glissé sur une plaque de verglas dans une épingle, mais finalement sans trop de gravité puisqu'il a remporté les deux premières spéciales jeudi soir. Et ensuite, on connaît la stratégie de Sébastien Ogier, c'est partir très fort le matin et puis ensuite gérer l'avance l'après-midi, et à chaque fois, que ce soit jeudi, vendredi, samedi ou encore aujourd'hui dimanche, il a répété ce plan, et pour l'instant force est de constater que ça fonctionne, hein, puisqu'il est en mesure de remporter un sixième Monte Carlo.
Ben écoute, ça fonctionne effectivement super bien. Alors on sait que c'était un choix de sa part, Lucas, à l'intersaison. Tu sais, la question s'était posée de savoir notamment l'équipe Citroën, l'équipe française, et on va en parler dans un instant. Je sais que tu as rencontré le nouveau patron de cette équipe Citroën qui a succédé à Yves Maton. On voit que c'est quand même aussi beaucoup. J'allais toujours comparer avec la moto, les Grands Prix moto et les autres épreuves moto, où vraiment le rôle du pilote, en l'occurrence de l'équipage, avec Julien Gracia qu'on n'oublie pas, est très important. La preuve en est une nouvelle fois.
Oui, la preuve en est, en effet, de toute façon, Sébastien Ogier est aujourd'hui le meilleur pilote au monde de rallye. Alors, on sait que Citroën fait face à des coupes budgétaires via le groupe PSA. Ils ont décidé d'essayer de recruter Sébastien Ogier. Les exigences financières de ce dernier étaient visiblement trop importantes. Citroën a préféré miser sur Chris Meek et Craig Breen, et donc ne pas prendre Sébastien Ogier. Force est de constater que c'est pour l'instant peut-être pas le meilleur choix possible, puisque Ogier, via M-Sport et en plus avec un petit peu plus de soutien technique, notamment de Ford, reste toujours aux avant-postes.
Et oui, c'était important, hein. C'était l'une des conditions évidemment pour que Sébastien Ogier signe à nouveau avec l'équipe de Malcolm Wilson, qui a tout remporté, on le rappelle, à la fin de la saison dernière, puisqu'ils avaient évidemment le titre en équipe et le titre avec les pilotes. On revient justement aux opposants, aux adversaires, mais d'abord, tu as rencontré un des supporters de Sébastien Ogier, Julien Gracia, et ce qu'il y a de formidable, et ça on vous le dit sur cette antenne, je vous le dis très souvent, c'est qu'outre leur talent au volant, leur talent dans l'habitacle, eh bien ce sont des types extrêmement sympas et extrêmement accessibles. On écoute ce supporter que tu as pu rencontrer.
Dès que tu les appelles, ils viennent, ils te font prendre des photos avec eux et tout, c'est super quand le mec est champion du monde, tu peux l'approcher. Bon, on le voit, rien qu'en 2017, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois quoi, avec le fan club, c'est vrai que c'est sympa.
Eh oui, c'est sympa effectivement, parce qu'en plus il reste tout à fait accessible, on le dit, tout à fait simple. D'ailleurs, comme c'est en période hivernale, on sait qu'il a été moniteur de ski, hein, Sébastien Ogier également, il tient très très bien sur des planches, donc il a plusieurs talents. On sait qu'il est aussi mécanicien de formation, donc il est capable de ménager cette mécanique. Alors Lucas, derrière, pour le moment, encore une fois, avant cette dernière épreuve, cette Power Stage, on trouve les Toyota en tir extrêmement groupé, dont un pilote qui a fait un transfert et qui se débrouille, ma foi, pas mal du tout au Tanac.
Oui, au Tanac, qui était que Sébastien Ogier connaît très bien, hein, puisqu'il était chez M-Sport l'année dernière. Au Tanac est donc parti chez Toyota. On connaît les ambitions de Toyota, c'est tout simplement remporter le titre pilote et remporter le titre constructeur. Alors pour l'instant, au Tanac est figure en très bonne position puisqu'il est deuxième, et il est le seul en fait capable de tenir le rythme de Sébastien Ogier, puisque après tous les autres pilotes sont relégués à plus de 2 minutes. C'est le seul sous la minute, à 57 secondes, on le rappelle juste avant la Power Stage. Mais oui, Ott Tanak, l'Estonien, qui est un pilote extrêmement talentueux sur une voiture qui visiblement fonctionne bien. On rappelle que c'est que la deuxième année, hein, en championnat du monde des rallyes de Toyota qui a fait son retour l'année dernière. Donc voilà, Toyota qui prend ses marques en 2017 et qui espérera gagner l'année prochaine, cette année, avec Ott Tanak, qui est un pilote extrêmement talenteux.
Et oui, je crois que c'est fait, ça y est, je crois que Sébastien Ogier vient d'en terminer là dans cette spéciale, et c'est lui qui apparemment a signé le meilleur temps, si je ne m'abuse, hein. Ça voudrait dire, Lucas, je sais pas si tu as également les résultats qui tombent, ça voudrait dire que a priori il ramasserait les 5 points supplémentaires, je pense. En tout cas, c'est une nouvelle victoire au Monte Carlo. Immédiatement, les deux pilotes qui montent sur la voiture, je ne sais pas où se trouve Eric Briquet, on va le retrouver tout à l'heure, mais si Eric évidemment est joignable et dans le coin, on sait qu'il arrive toujours à arracher quelques mots à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. En tout cas, on peut l'annoncer, Lucas, c'est une nouvelle victoire. Tu l'as signalé, la sixième de rang dans le cadre de ce Monte Carlo. Et on peut dire que la saison démarre formidablement bien. Et ce qui est pris, Lucas, et on l'a vu l'an dernier, n'est plus à prendre pour l'équipage français.
Exactement, on l'a vu l'année dernière, puisque tu le rappelles, Ogier n'était pas forcément le pilote qui a le plus gagné. C'est Thierry Neuville qui avait inscrit le plus de points grâce à des victoires l'année dernière. Quatre rallyes remportés, seulement deux entre guillemets pour Sébastien Ogier. Mais Sébastien Ogier, lui, se montre beaucoup plus régulier, marque des points à quasiment tous les rallyes. Et là, en effet, il va prendre 26 points puisque il a terminé cinquième et prend le dernier petit point de la Power Stage. 26 points déjà marqués dans le cadre du championnat, une très très bonne opération pour lui et son coéquipier Julien Ingrassia.
Bah écoute, c'est absolument génial, oui, puisque tu l'as souligné aussi, on en a parlé tout à l'heure, Sébastien Ogier a conditionné en quelque sorte sa signature à nouveau pour cette saison au fait que Ford vienne aider financièrement, vienne aider au développement technique également de cette machine, et on peut dire qu'une nouvelle fois, là, il se positionne comme l'équipage à battre. Mais derrière, je suis impressionné, moi, par les performances des Toyota. Alors, pour leur première saison, Lucas, et tu t'en souviens, évidemment, Toyota s'était remarquablement bien comporté, mais là, il place deux hommes sur le podium. On a parlé de Ottanak il y a un instant, qui va terminer aux alentours de la minute. Hein. Et puis, Jari-Matti Latvala, qui lui aussi est un pilote très rapide, qui a eu, dès le début d'ailleurs, quelques petits soucis avec, je crois, deux têtes à queue dès la première ou la deuxième spéciale.
Exactement, Jari-Matti Latvala qui lui a eu des petits problèmes sur les plaques de verglas, un peu comme Sébastien Ogier, comme Thierry Neuville, mais lui s'en est moins bien sorti que Sébastien Ogier, un peu mieux par contre que Thierry Neuville qui lui est resté bloqué dans un ravin. Pas de chance, pas de spectateurs à ce moment-là pour l'en sortir. Latvala donc après qui a confié hier vouloir plutôt gérer, il était un petit peu en délicatesse avec les conditions météorologiques et a préféré conserver des points marqués et puis essayer de faire un petit peu mieux dès le prochain rallye en Suède.
Et puis ce tir groupé de Toyota est d'autant plus impressionnant que, si je ne m'abuse, et avec sous réserve du classement général final validé, c'est Escalepa Lapi, le jeune pilote de Toyota.
Et Sapeka,
autant pour moi. Je me trompe toujours. Et Sapeka, tu as raison. En tout cas, il termine quatrième. Et on peut dire que Toyota fait le carton plein, ou quasiment, là, pour le coup.
Alors moi sur le classement général que j'ai, c'est Chris Peake qui terminerait
quatrième. Il l'a arraché dernier moment.
Attention juste avant le début de l'émission. Les résultats ne sont pas officiels. et tombent au compte-goutte, donc on va pas prendre de risques. Mais en effet, oui, Toyota qui fait dans tous les cas un joli tir groupé, et c'est surtout ce que montre ce tir groupé, c'est la performance de la voiture quand on a trois pilotes capables de se hisser dans les hauteurs du classement. Ça montre que la voiture est performante, le châssis est performant et le team fonctionne, ce qui est de bon augure pour les objectifs très très élevés de la firme japonaise.
Alors, on dira un mot un tout petit peu plus tard de Hyundai, mais je sais que tu as rencontré Pierre Budard. Alors, Pierre Budard, donc, c'est le nouveau patron de cette équipe Citroën Sport. On l'a dit qu'il a dû laisser filer certainement à contre-cœur et peut-être le départ de Yves Matton pour la FIA, puisqu'il est conseiller auprès du président Todd et en charge de cette partie rallye. Donc, on peut s'attendre effectivement à quelques décisions à moyen terme à ce sujet. Pierre Budard donc a succédé à Yves Matton, et tu l'as rencontré pour lui parler du retour de l'Aube. On va en dire un mot dans un instant. On va tout d'abord écouter Pierre Budard à ton micro.
On est ravis que Sébastien nous rejoigne. C'est une longue histoire entre Citroën Racing et Sébastien Loeb. Sébastien, donc, qui est maintenant un pilote PSA, puisqu'il roule aussi pour notre marque sœur, pour Peugeot. Voilà, il nous fait bénéficier de son expérience, de sa longue expérience en rallye. On est évidemment ravis de le retrouver sur des rallyes où il s'est imposé à de nombreuses reprises dans le passé. Il est clair qu'on va forcément apprendre de sa participation à ces épreuves. Il va forcément nous apporter sa longue expérience et nous permettre de progresser encore.
Et oui, progresser encore, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on l'a dit, on est clair, effectivement, Lucas, on sait que Citroën, je vais être très dur, mais n'a probablement pas l'ambition d'être champion du monde cette année, simplement de remporter des victoires. Et c'est vrai que l'arrivée de l'équipage, en espérant d'ailleurs que ça ira bien du côté du coéquipier Julien, du côté du coéquipier de Sébastien Loeb, parce qu'il a été blessé au coccyx, on sait, dans un accident au Dakar d'ailleurs. Donc, on espère qu'il pourra prendre part au premier rallye, je crois que c'est le rallye du Mexique qui est sur la liste.
Ce sera le rallye du Mexique. Normalement, selon les dires de Citroën, Daniel Elena devrait être en mesure d'assurer sa place aux côtés de Sébastien Loeb. Après, oui, en effet, Citroën aujourd'hui n'a plus les moyens, en tout cas pour jouer le classement constructeur, ça c'est certain, puisqu'avec deux voitures face à Hyundai, Toyota et M Sport, c'est complètement impossible d'aller jouer ce classement constructeur. Ils termineront vraisemblablement à la quatrième et dernière place, mais le retour de Sébastien Loeb va leur apporter beaucoup sur le plan de l'image, sur le plan de la communication et peut-être sur le plan des résultats, mais ce sera tout de même difficile pour Loeb qui n'a que très peu conduit ces nouvelles WRC.
C'est clair, effectivement c'est un challenge, on le verra donc au Tour de Corse également, et puis on le verra dans le rallye d'Espagne, hein, le rallye de Catalogne en fin de saison, qui sont des rallyes qu'il connaît bien et qui l'ont plutôt réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin c'est un pari délicat pour Sébastien Loeb, qui, on le sait, participera avant tout, et c'est son objectif premier au championnat du monde de rallycross. Alors, dernière marque officiellement représentée, Lucas, c'est Hyundai. Alors, il faut bien parler de défaite, là, quand même, parce qu'effectivement, Neuville, alors je vais pas m'avancer sur la place, là, on va attendre que ce soit terminé, mais il termine relativement loin, et c'est vrai que c'est une déception. Mikkelsen a été rapidement écarté, Dani Sordo a brillé un moment, puis après, on ne l'a plus vu. Bref, un rallye plutôt difficile que ce premier rallye de Montecal, premier rallye de la saison pour l'équipe Hyundai.
Extrêmement difficile, d'autant plus qu'on se rappelle l'année dernière, Thierry Neuville, hein, qui est le fer de lance de la marque, avait dit il faut que je sois plus régulier et que j'arrive à éviter les sorties de piste et les erreurs. Problème, première spéciale de la saison 2018 de WRC, il est sorti et il s'est posé dans un fossé. Donc en effet, lui a perdu toute chance dès le début du rallye de Monte-Carlo de bien figurer au général. Il devrait terminer en attente du classement officiel à la cinquième place. Donc c'est un moindre mal par rapport à sa grosse perte. Dani Sordo, lui, est tout simplement sorti. Et Andreas Mikkelsen a eu un problème technique, problème d'alternateur. Donc en effet, pour ce premier rallye de la saison, ça fait quand même beaucoup pour Hyundai, qui vise, comme Toyota, la première place du classement des constructeurs et un titre pilote avec soit Thierry Neuville, soit Andreas Mikkelsen.
Super. Je te remercie beaucoup, Lucas. Tu vas rester avec nous. On va revenir sur ce rallye de Monte-Carlo en toute fin d'émission. On va essayer d'avoir des réactions et puis d'avoir le classement en finale de toute façon, donc reste en stand-by comme on dit, on va essayer de trouver Eric Briquet qui doit être pas très très loin des vainqueurs si tout va bien pour essayer de leur arracher quelques mots. Merci en tout cas Lucas, et on te retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. On va changer complètement d'ambiance, on quitte le sud de la France, l'extrême sud et même la principauté de Monaco, et avec Benoît on va monter au nord puisqu'on va se retrouver sur la plage du Touquet, oui. Où le départ de l'enduro doit avoir lieu de l'enduropal, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant.
Exactement.
Depuis quelques années,
oui.
Doit avoir lieu dans quelques minutes, les premiers pilotes sont rangé sur la grille de départ.
Alors, petite information importante, départ décalé. Le départ de cet Enduropal du Touquet devait être donné à 13h30. Il sera finalement donné à 13h40. Raison technique évoquée par l'organisation. Et du coup, on partira à deux vagues. Tu le sais, il y a 1200 partants sur l'Enduropal du Touquet. Et ils partiront par vague de 600. Alors, les dossards 1 à 599 partiront en premier. Les suivants juste après. Mais on rappelle que c'est une course qui mélange pilotes professionnels et amateurs. Hein. C'est quand même ce qui fait le charme de cet Enduropal du Touquet sur les plages évidemment du Nord, et on suivra ça donc départ 13h40 pour l'Enduropal du Touquet.
Et oui, effectivement, et pour tout te dire, j'avais eu le plaisir d'y participer à deux reprises, ça ne rajeunit pas.
J'ai vu ça.
Je te dis
tu
pas quand
dit,
ouais. Il y a longtemps. Ah bah, je
déjà,
te dis pas combien j'avais terminé
première
aussi.
Première édition, mais... 1975.
Ah non, c'était un petit peu après. C'était un tout petit peu après, on va dire.
Après, je crois.
Ouais, à la fin des années 70, au début des années 80. Et oui, on aimait la moto déjà. Et effectivement, comme tu dis, on les appelle les poireaux, hein, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on surnomme. Alors, on les voit passer d'ailleurs, les pilotes les plus rapides, et je peux dire que c'est impressionnant, et le plaisir c'est d'être sur la grille de départ à côté
évidemment.
Des meilleurs pilotes de l'époque. Allez, on va vous parler notamment du Dakar, on va y revenir dans un instant avec Cyril Després, vous le savez, Cyril qui s'est imposé à moto et qui est pilote automobile maintenant dans l'équipe Peugeot. Il va revenir sur son Dakar qui a été difficile, mais il a été au bout. On reviendra, on vous l'a dit, sur le Monte Carlo en toute fin d'émission, et puis on vous parlera également des 24 heures de Daytona. Vous restez dans Motors, c'est sur RMC, c'est maintenant.
RMC Motors. RMC jusqu'à 14h. Motors. Jean Lecroix.
Et oui, vous êtes bien dans Motors, l'actualité des sports mécaniques. On vous a parlé du Monte Carlo avec cette victoire magnifique de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia aux commandes de la Ford dans ce Monte Carlo devant les deux Toyota de Tanak et Latvala. Sixième victoire d'affilée pour l'équipage français qui démarre on ne peut mieux cette saison 2018. On fait un petit tour des stades, comme l'on dit. On va commencer par celui de rugby. On va retrouver Laurent Depré pour parler de Stade français section paloise, ou plutôt, tu vas nous dire où on en est. On a dû passer le cap de la mi-temps. Maintenant, Laurent, est-ce que la section paloise continue à les aligner?
Eh ben, pour l'instant, oui. 26-0, un score acquis à la pause. C'est reparti depuis une petite minute. Des Parisiens qui n'y arrivent pas, qui donnent le bâton pour se faire battre et qui ont encaissé déjà 4 essais. Le premier, Benson Stanley, transformation manquée par Slade, 5-0. Puis Charlie Mallier, transformation réussie, 12-0. Ben Mowen y va de son troisième essai pour la section paloise, la transformation de Slade qui passe 19-0. Et en toute fin de première période, une interception sur une transmission Yobo Naya Salevu. Belle interception de Votou et une course quasiment en marchant, tranquille, de 80 mètres, parce que c'était écrit qu'il n'y aurait plus de défenseur, et donc Votou qui va marquer entre les poteaux, facilitant la transformation de Colin Slade. 26-0 pour une section paloise qui profite des cadeaux de Parisiens qui n'y sont plus du tout.
Et oui, on espère qu'ils vont y revenir, en tout cas pour la beauté du sport, comme l'on dit. Merci beaucoup, Laurent. On te retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps, naturellement. Allez, on fait un saut maintenant sur les pistes de Garmisch-Partenkirchen, et on retrouve un homme qui est plus habitué des pistes de Formule 1, c'est Louis Amard. Salut Louis, tu vas bien?
Salut Jean-Luc, ça va, et toi? Ça va vite aussi ici quand même.
Hein. Oui. Écoute, je sais que ça va très très vite et je sais qu'ils prennent des risques formidables. Alors on en est où dans ce slalom géant?
Eh bien, la deuxième manche vient à l'instant de démarrer, Jean-Luc. C'est un Autrichien, Christian Ischbühel, qui l'a entamé. Mais le grand moment, ça sera tout à l'heure, dans une grosse demi-heure, lorsque les trois derniers s'élanceront dans l'ordre. Alexis Pinturo, Ted Ligeti et Marcel Hirscher. Ce sont les trois qui ont dominé la première manche. Alexis Pinturo s'est classé troisième et sont tout simplement les trois meilleurs géantistes des 10 dernières années. Ils comptent à eux trois réunis 59 victoires en slalom géant. C'est la dernière étape avant les Jeux Olympiques. Voilà l'enjeu de cette deuxième manche ici à Garmisch-Partenkirchen.
Super, merci beaucoup Louis, on te retrouve tout à l'heure naturellement. Et tout de suite, eh bien, ça va être le briefing, on va parler du Dakar.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, 320.
Le briefing.
Et oui, ce briefing, il est consacré, je vous l'ai dit, au Dakar qui s'est achevé il y a une semaine maintenant en Amérique du Sud, du côté de l'Argentine. Et pour en parler, on va retrouver l'un des héros de ce Dakar. Il s'appelle Cyril Després, il est sur les pistes lui aussi, mais pas les mêmes. Salut Cyril.
Ouais, bonjour. Ouais, pas les, c'est pas, c'est plutôt en Andorre, les pistes, là. C'est pas en Autriche, hein.
Et voilà, je sais bien. Je sais que tu es sur les belles pistes d'Andorre, effectivement, où tu as plaisir à récupérer de ce Dakar. Alors, écoute, j'ai lu et entendu partout, et toi qui connaissais également les Dakars africains, on dit que c'est l'un des plus difficiles qu'il y ait jamais eu sur le terrain. Tu confirmes?
Ouais, je confirme. Bah, juste pour preuve, l'an dernier, le Dakar 2017 s'est gagné après 26 heures de chrono. Cette année, il se gagne en 51 heures, donc presque le double. Donc ah, c'est ouais, vrai qu'on a passé beaucoup, beaucoup d'heures dans la voiture. Pour ma part, j'ai jamais fini une étape de nuit, et là cette année, j'en ai fini trois de nuit. Donc,
C'est clair. Alors Cyril, on le sait évidemment, tu as un palmarès formidable, je le rappelais, à moto naturellement. Tu as remporté également la route de la soie, tu as remporté plein de rallyes, tu pilotes pour Peugeot. Alors la première question que j'ai envie de te poser avant de revenir sur ton parcours dans ce Dakar qui a été malheureusement, qui a connu des problèmes dès le début, alors que je sais que ça t'intéresse aussi, hein, du côté de l'enduro du Touquet, on n'est pas loin du départ là, hein, ça doit être dans quelques minutes ouais, maintenant, puisque les pilotes sont rangés là-bas. On va en parler dans un instant. Oui, je te disais Cyril, quel est ton avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on le savait, c'était annoncé, l'équipe Peugeot arrête son engagement dans toutes ces épreuves-là.
Ce qui va se passer, voilà, comme la vie d'un sportif, il y a des fois des programmes qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui renaissent. Et pour l'instant, voilà, on est là depuis une semaine, on est rentré depuis une semaine. Je veux continuer définitivement la voiture. Je me régale de plus en plus en rallye et en rallye raid et en voiture. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour en parler. Ce qui est clair, c'est que voilà, j'ai de la chance de faire partie de cette filière Red Bull, que ce soit en moto ou en quatre roues, ils ont toujours été là, présents, à m'aider. Et Et ce qui est sûr, c'est que voilà, grâce à eux, je pense qu'on devrait retrouver une équipe assez rapidement.
Bon, bah super. En tout cas, on croise les doigts pour toi, évidemment, comme tu le dis, dans le cadre de cette équipe. Tu devrais sans problème retrouver de la place. Alors, ça s'est mal passé, je l'ai dit, pour toi assez rapidement dans ce rallye. Raconte tout ce qui s'est passé exactement.
Ouais, ça s'est très bien passé puisque j'ai pris la tête du rallye après 3 jours. Dans le bon rythme, sans trop forcer, aux côtés de Nasser Latifi, aux côtés de Carlos Sainz, Stéphane, Esteban Ocon. Donc voilà, j'étais plutôt content du rythme global. Et puis dans la quatrième étape, au kilomètre 200, je me suis juste fait un peu surprendre par une pierre qui a roulé sous ma roue avant et qui est venue endommager tout l'arrière de la voiture. Ce qui est bête, c'est que voilà, des cailloux en moto, j'en ai évité un paquet. Tu peux t'imaginer. J'ai jamais abandonné un Dakar, donc voilà, j'ai toujours évité les chutes, évité les chocs. Je suis plutôt de quelqu'un prudent. Et là, à 40 km/h, se faire piéger et puis endommager cette 3008 d'EKR qui nous a bloqué à peu près une douzaine d'heures sur place en fait.
Ouais. Bon, c'est quand même Peugeot qui l'emporte. Hein. Heureusement, il en restait un, c'est Carlos Sainz, avec une autre victoire pour lui, pour le Matador, peut-être la fin de sa carrière. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a encore décidé, lui non plus. Il est peut-être en étude. En tout cas, très courageusement, Cyril, avec ton équipier David Castera, qui par parenthèse a reprend le rallye du Maroc. Hein. C'est ce que j'ai vu. A priori, il continuera avec toi, hein, quelles que soient les responsabilités qu'il a par ailleurs ou pas.
Non. David a fait une parenthèse sportive, mais. De 3 ans et demi, mais l'organisation lui plaît, on a tourné la page, il vole vers un avenir différent et au Maroc et avec le rallye du Maroc, donc voilà, c'était compréhensible. Je savais que c'était quelque chose qu'il souhaitait faire, avoir son propre rallye, donc voilà, bon courage à lui, bon vent, on va bien.
Ouais, bien sûr. Alors, c'est peut-être trop tôt pour savoir avec qui tu vas rouler ou tu as déjà...
Non. Comme je te disais, ça fait 10 ans que le Dakar en Amérique du Sud, c'est le Dakar qui a été le plus dur. Je suis rentré depuis même pas une semaine. J'ai eu du mal encore à me poser. J'ai passé 2 jours à Gap pour le WRC hier. Je suis rentré hier dans la nuit. Donc voilà, ce qui est important, c'est surtout remercier tout le team Peugeot, tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Et puis d'avoir moi appris aux côtés de Seb, de Carlos, de Stéphane, c'était juste... génial, donc je suis enchanté de la victoire de Carlos cette année. Et je te souhaite qu'à 55 ans, j'arrive à en faire de même.
Hein. Je te le souhaite aussi, effectivement. C'est clair. Alors, courageusement, je le disais, ça va être ma dernière question, parce qu'après, je vais te laisser repartir sur les pistes avec tes filles, hein, je crois. Il faut en profiter, comme tu dis, il faut se refaire la cerise et se refaire la santé. Tu t'es mis au service de l'équipe, et c'est vachement courageux, parce que on en connaît d'autres qui auraient abandonné. Hein. Donc, tu as servi d'assistance extrêmement rapide, en quelque sorte.
Bah, tout à fait. C'était de toute façon, il y avait 2 motivations principales sur le Dakar. C'était d'essayer de gagner personnellement avec David, et la deuxième motivation, c'était si jamais il nous arrive quelque chose et qu'on peut plus, au moins essayer d'aider la marque pour gagner. Peugeot m'a aidé dans mes débuts en rallye et sur le Dakar entre autres. Et donc voilà, jour 5, je me suis retrouvé porteur d'eau, à essayer d'assister du mieux que je pouvais, d'essayer de regarder ou d'attendre au début de la spéciale, de laisser passer mes coéquipiers, d'essayer de les suivre, d'essayer de les aider. Et puis c'est vrai que malheureusement Stéphane a eu un gros problème. Il a pris une pierre dans la boue en allant sur après la passe en direction du Salar de Mouni. Et là on a fait des équipiers modèles, je sais pas, mais en tout cas on a fait notre job d'essayer de l'aider à repartir le plus vite en désossant la moitié de notre voiture pour réparer la sienne. Et puis après il nous reste plus qu'à attendre quelques heures le camion. Et puis voilà, c'est simple à dire, c'est pas forcément
pas facile
simple
à faire.
Ouais. Exactement, mais on l'a fait vraiment volontiers parce que j'ai beaucoup de respect pour ces grands pilotes qui ont fait partie de ce team d'EKR. depuis 3 ans, donc voilà, c'était naturel, on va dire.
C'est une des notions d'amitié aussi et de fraternité, j'allais dire, avec vous. En tout cas, Cyril Després, donc vainqueur du Dakar à moto, on l'espère un jour en auto, hein, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite aussi pour marcher sur les traces de Stéphane Peter Hansel dont tu parlais il y a un instant. Je te remercie beaucoup Cyril d'avoir été avec moi en direct dans cette émission Motors aujourd'hui. Je te souhaite déjà de trouver un très bon volant très rapidement et un très bon équipier, j'en doute pas un instant. Tu me donneras des nouvelles d'ailleurs dans l'émission, ok?
Ouais, sans problème, pas de problème.
Super.
Merci à vous.
Merci beaucoup, bon dimanche
journée,
à toi.
Hein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Allez, je vous l'ai dit, on passe d'une piste à l'autre, eh bien des pistes de ski en l'occurrence, on a rejoint Cyril Després. On retourne sur l'arrivée du rallye de Monte-Carlo et on va retrouver l'envoyé spécial d'Auto Hebdo et d'RMC en l'occurrence, Eric Briquet. Salut Eric.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Et merci d'être avec moi en direct dans cette émission. On a eu Lucas Vinoy, tu sais, tout à l'heure, on a fait une première partie. On a donné le résultat et donc la victoire que tu vas nous confirmer, je le pense évidemment, de Ogier et Ingrassia, une superbe victoire. Je crois qu'il termine donc finalement cinquième de la Power Stage, hein, c'est ça.
C'est ça, il rapporte un petit point supplémentaire aux 25 points de la victoire. Donc c'est déjà un petit point de bonus qui pourrait servir en fin de saison, parce que c'est vrai que si on se réfère au championnat de l'année dernière, le moindre petit point risque de compter encore cette année.
Ouais, c'est clair. Alors on avait évoqué effectivement la signature chez Ford, dans l'équipe de Malcolm Wilson, conditionnée en quelque sorte par l'arrivée de Ford, ce soutien de Ford. Est-ce qu'il est sensible sur le terrain, Eric, ou c'est plutôt quelque chose qui se passe évidemment dans le développement technique à l'usine et dans les séances d'essai?
Non, sur le terrain, franchement, il n'y a pas de différence notable, ne serait-ce qu'au niveau de la structure d'assistance, au niveau de la voiture. Je crois que c'est encore trop tôt, puisque l'accord a été annoncé quand même fin décembre. Ce support, hein, c'est un support, c'est pas un engagement complet de la marque Ford sur le championnat du monde de rallye, c'est un partenariat, on va dire. Je pense que les fruits porteront sans doute en deuxième partie de saison, voire même l'année prochaine.
Ah, okay.
C'est pour Malcolm Wilson, disons que c'est un grand soutien, c'était important de l'avoir. C'est plus pour le futur que pour ce début de championnat.
En tout cas, quelle formidable manière évidemment de débuter la saison du WRC 2018 par cette victoire. C'est important de prendre des points importants, alors que oui, du côté du Touquet, on va faire une petite interruption. Tu restes avec moi Eric, parce que ça va être le départ de l'enduro. Benoît, je crois que les pilotes sont maintenant rangés. Il y a au total 1100 pilotes rangés sur la grille de la ligne de départ de cet enduro.
Exactement, 1200 même, je crois, partant Jean-Luc, professionnel et amateur mélangé. Évidemment, on partira par deux vagues de 600 pilotes moto sur cette plage du Touquet, évidemment dans les Hauts-de-France. Ça part d'ici 5 secondes. C'est très impressionnant, hein, les images évidemment sur la plage du Touquet, les 600 premiers qui vont s'élancer d'ici quelques secondes. Ça y est, le départ va être donné, on vous l'a dit, décalé de 10 minutes. C'est parti pour cet Enduropale du Touquet. On rappelle le principe, c'est une course d'endurance, donc de motocross.
Oui.
Les pilotes qui peuvent atteindre 170 km/h, et l'objectif c'est de parcourir un maximum de tours en 3 heures. Au bout de 3 heures, celui qui a fait le plus grand nombre de tours gagne cet Enduropale du Touquet.
Absolument Benoît, on y reviendra dans un instant et on parlera des favoris, hein, notamment, et qui sont déjà lancés. Voilà, 170 km/h, tu le disais, et il y a les bâches d'eau qu'il faut éviter, hein, parce qu'évidemment ça ralentit et puis ça peut perturber le fonctionnement des moteurs. On revient avec Eric Briquet sur ce WRC et ce rallye de Monte-Carlo. Eric, victoire de Ford grâce à Ogier Ingrassia, et puis un très beau tir groupé de Toyota derrière, avec quelqu'un qu'Ogier connaît bien puisque c'était son rival au sein de cette équipe Ford, c'est Ott Tänak.
Son équipier l'an dernier, mais qui va être son principal challenger sans doute cette année, parce que c'est vrai qu'on l'a vu monter en puissance en 2017, l'Estonien Ott Tänak, et là il confirme. L'an dernier il était déjà très très bien sur le Monte Carlo, il avait terminé sur le podium, troisième en raison d'un petit problème mécanique, sinon le doublé était assuré pour l'effort de l'an dernier. Cette année il s'est montré le plus constant, le plus rapide, le plus régulier des pilotes Toyota, donc ça laisse présager d'une très belle saison cette année. En tout cas, c'est un candidat supplémentaire au championnat du monde des pilotes, avec un Thierry Neuville, avec un Andreas Mikkelsen. Ces deux-ci sont chez Hyundai, mais il y a aussi Jari-Matti Latvala qui n'est pas loin. Et puis il y avait un troisième pilote de Toyota qui était aux portes du podium, c'est Esa Pekka Lapin. Malheureusement, une petite faute dans la dernière épreuve lui a fait perdre quelques places au classement général, sinon il aurait terminé quatrième. Et pour un premier rallye en WRC sur le Monte Carlo, je pense que c'est un jeune espoir à suivre, ce Esa Pekka Lapin, qui a, rappelons-le, remporté première victoire. C'était l'été dernier au Finlande.
On est peut-être en train de perdre Eric. Je ne sais pas si on t'a encore. Eric, tu m'entends?
Oui,
tout va bien, parce qu'il y a eu des bruits bizarres. Alors écoute, on en revient à Citroën, le premier classé c'est Chris Meek. Alors certes, il récupère la quatrième position, là on vient de le dire, mais quand même très loin de la tête, hein, évidemment. On va regretter longtemps de ne pas avoir signé Ogier chez Citroën.
Ah, clairement, je pense que si Citroën avait pris Ogier comme ça avait été envisagé par Yves Maton à l'automne dernier, eh bien, ce serait pas une Ford Fiesta que l'on célébrerait sur le podium de la première place.
Ce
serait
pas
une
dire.
Belle victoire, c'est-à-dire l'objectif de Citroën qui est de remporter des victoires. Ben, cet objectif aurait déjà été rempli de manière brillante ici, parce que je pense que c'est avant tout le pilote qui fait la victoire sur un Monte Carlo. La preuve, Sébastien Ogier vient de battre un record ici sur cette grande classique hivernale. C'est le premier pilote dans l'histoire à avoir remporté 5 fois consécutivement le rallye Monte Carlo. Et si j'ajoute sa première victoire en 2009, c'était en IRC, eh bien voilà, Sébastien Ogier est déjà à 6 victoires sur ce rallye. Donc avec donc une Peugeot la première année, ensuite en Volkswagen Polo, et puis depuis 2 ans en Ford Fiesta. Donc ça prouve bien que c'est un rallye de pilotes avant tout. Et c'est vrai que Citroën va peut-être se mordre les doigts. En tout cas, Carlos Tavares l'a confirmé que sa politique était la bonne, il veut rester dans cette voie. Personne ne comprend, d'ailleurs, personne ne comprend qu'on puisse partir avec des ambitions aussi modestes
limitées
sur un championnat du monde rallye. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Ouais, c'est comme ça. Je te remercie beaucoup, Eric, d'avoir été en direct avec moi dans cette émission Motors pour parler du Monte Carlo, donc qui s'achève sur la victoire, on le répète, de l'équipage français. Sébastien Ogier, Julien Ingrassia aux commandes de la Ford devant 2 Toyota, celle de Tanak et Latvala. Et puis, on n'a pas eu le temps de vous parler de Hyundai, mais c'est un peu la déroute du côté Hyundai et de son favori Thierry Neuville. Vous êtes bien dans Motors et nous aussi on y est bien, je peux vous le dire, et vous restez avec nous, avec Benoît Boutron. Dans un instant ce sera Radio Paddock et on a plein de choses à vous dire et vous parler de l'enduro du Touquet qui s'est lancé sur la plage du Nord. Vous restez avec nous.
RMC Motors, Jean Lecroix.
Et oui, le bruit des moteurs dans Motors, on y revient dans un instant. Mais d'abord, on retrouve évidemment sur cet affrontement, on l'espère en tout cas, entre le Stade français qui était un peu dépité en première mi-temps et la section paloise qui reprend un peu du poil de la bête, Laurent Depré.
Effectivement, même s'ils sont à 13 contre 15, les Palois, ils sont toujours très largement devant. 26-0, 4 essais inscrits tous en première période, 0 point inscrit en deuxième période. Mais 13 contre 15, pourquoi? Parce que carton jaune à Conrad Smith pour un plaquage haut, dangereux. Donc 10 minutes de frigo et puis il y a maintenant 2 minutes, carton jaune pour l'Espiroc, le talonneur, pour une interception en avant volontaire jugée par M. Gahuzer, à juste titre, qui a tué, on va dire, la peut-être seule action d'essai de Parisien qui n'y sont pas. Jules Plisson, qui n'a pas été bon, est sorti sous les sifflets. C'est assez étonnant, lui, l'enfant du Stade français. Et effectivement, c'est une très mauvaise prestation de Parisiens qui vont regarder jusque à la fin de la saison, et ben en bas du tableau tout simplement. 26-0 pour des Palois qui font la très bonne opération et reviendraient à 3 points de la 6e place occupée par Toulouse.
Merci beaucoup Laurent, on te retrouve tout à l'heure évidemment pour le final dans Intégral Sport avec Arnaud Souk. Mais tout de suite, vous l'attendiez, c'est Radio Paddock avec Benoît Boutron.
RMC Motors.
World Champion.
Radio Paddock.
Et il y en a pour tous les goûts aujourd'hui dans Radio Paddock. Il y a de la Formule 1, il y a du MotoGP, il y a même les 24 heures de Daytona. On fera un point sur le live qui est en train de se courir. On le rappelle avec Fernando Alonso qui fait partie de la course. C'est quand même assez mythique tout ça. Mais je te fais juste un petit point sur l'Enduropal du Touquet qui est donc parti à 13h40. Et après quelques minutes de course, eh bien ils sont 2 Français en tête pour l'instant. Milko Potisek, ça te dit forcément quelque chose puisque son frère Timothée a gagné l'Enduropal 2 fois en 2006 et en 2009, eh bien le jeune Milko est pour l'instant
et
en
le
tête.
Papa roulait aussi, tu sais.
Exactement, ils étaient passionnés et ça a démarré avec le papa qui a roulé lui aussi quand il était jeune. Et puis le deuxième, c'est Victor Brossier qui est là, lui aussi un passionné de moto et qui est deuxième pour l'instant de cette course. Attention au Belge Damon Mertens, il fait partie des favoris, il a le dossard numéro 1, il est troisième à l'affût et c'est long l'Enduropal du Touquet, ça dure 3 heures. Mais donc
attention au Damon, justement.
Attention au Damon. Exactement. Alors cette petite info Formule 1. Fallait qu'on parle un peu du F1, mon petit Jean-Luc. On en parle depuis des semaines. Qu'est-ce qui va se passer chez Williams? Et cette fois, c'est acté. On connaît donc les 2 pilotes pour cette saison chez Williams. On vous rappelle l'arrêt de Felipe Massa, évidemment, chez Williams. Pas de Robert Kubica qui sera pilote d'essai le vendredi. C'est bien ça, hein, malgré sa belle carrière.
On peut dire ça comme ça.
Et ce qui te fait mal au cœur, c'est que ce sera Sergei Sirotkin et Lance Stroll qui seront donc dans les baquets Williams. Sirotkin, jeune russe, pas forcément de référence, mais un gros budget pour lui. Donc Sirotkin sera bien pilote Williams cette saison en Formule 1.
Ben oui, c'est vrai que c'est une déception. Je n'ai rien contre lui, encore une fois, mais on comprend bien qu'il a évidemment une mallette de dollars extrêmement gonflée.
Et ça compte en Formule 1.
Ça compte beaucoup en Formule 1, comme Lance Stroll, mais qui, encore une fois, je l'ai plutôt défendu l'an dernier, tellement beaucoup de personnes l'attaquaient. Et puis, il a sauvé sa saison avec l'Azerbaïdjan, hein, on le sait bien, où il réalise une performance formidable. On peut pas l'enlever, il était opportuniste. Et on reste prêt, si tu veux bien. Voilà, on va faire un saut tout de suite. Le ski Garmisch-Partenkirchen, parce que on retrouve Victor Muffagendé avec Louis Amar.
Absolument, Victor Muffagendé sur la piste du Kandahar au deuxième temps intermédiaire. Il accuse 23 centièmes de retard sur le leader provisoire de cette course, italien Giovanni Borzotti. On rappelle que les cadors ne sont pas encore descendus. Marcel Hirscher, Ted Ligetti, Alexis Pinturo clôtureront cette deuxième manche du slalom géant. Ça sera sans doute un petit peu après 14h. Troisième temps intermédiaire et 16 centièmes de retard toujours pour Victor Muffagendé, qui pour l'instant est dans le coup pour un podium provisoire. Muffagendé qui il y a quelques semaines a remporté la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde, mais c'était en Super G qui la semaine dernière à Kitzbühel a signé une belle quatrième place. Mais c'était en slalom, il manque de repères en géant, il s'est peu entraîné, seulement deux séances en slalom géant depuis le début du mois de janvier. Victor Muffagendé qui attaque le mur final, qui va en terminer à l'instant et qui prend la première place avec 12 centièmes d'avance sur l'italien Borzotti. Voilà de la confiance pour Victor Muffagendé, mais cette première place ne peut être que provisoire car les poids lourds arrivent, Jean-Luc.
Eh oui, merci beaucoup Louis. En tout cas, un Français aux commandes donc de cette descente, de ce slalom géant de Garmisch-Partenkirchen. Tout à l'heure on va te retrouver pour Alexis Pinturo et lui a des chances de gagner. Alors on retrouve tout de suite Benoît Boutron dans Radio Paddock.
T'as un vu peu, comment il est, Louis Amar? Il ne peut pas s'empêcher de couper quand il y a de la Formule 1. Il est incroyable, oui. Celui-là.
Il est venu quand même.
Exactement. Alors oui, juste pour conclure sur cette histoire, on l'a dit, l'argent a fait la différence chez Williams. Sirotkin, poussé évidemment par de gros sponsors et surtout un énorme budget de 15 millions d'euros. Hein. C'est à peu près la somme qu'on annonce chez Williams.
C'est ça. Alors évidemment, c'est toujours assez secret, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Évidemment, on sait que du côté de Lance Stroll, d'après ce qu'on dit, ce serait deux ou trois fois plus que papa apporterait pour maintenir le fils dans le baquet. Bon, on espère que, mais bon, ça veut dire que Williams, pour moi, clairement, a abdiqué, évidemment, voilà, la potentialité de jouer devant. On parle même pas des trois premières places, mais je vois pas comment avec ces deux jeunes débutants, même avec Robert Kubica, qui sera dans le rôle du tonton, si ça te va bien, du parrain, oui, appelle ça comme tu veux. Mais c'est quand même très dommage, parce que je pense qu'il a montré qu'il était du niveau, qu'il était revenu.
Ça, c'est
et écoute,
sûr.
On sait jamais, tu sais, en Formule 1, tout peut arriver. On souhaite absolument aucun malheur à ces deux jeunes pilotes. Au contraire, on leur souhaite beaucoup de succès. Mm. Mais en tout cas, on a assuré ses arrières, on va dire, avec Robert Kubica, qu'on sera ravis de revoir dans les paddocks de F1, en tout cas.
Un mot de MotoGP,
oui,
puisque c'est l'actualité. Reprise des essais avant cette saison qui va démarrer, évidemment, cette saison 2018. Le MotoGP qui a fait sa rentrée en Malaisie aujourd'hui. Trois journées d'essais prévues sur la piste de Sepang. Et on a les premiers résultats, Jean-Luc. Je te donne les résultats, donc le classement de ces premiers essais. Dani Pedrosa était le plus rapide sur sa Honda. Deuxième, Andrea Dovizioso. Et troisième, Jorge Lorenzo. Donc un doublé Ducati sur le podium. Et c'est quand même une bonne indication. Inquiétude pour Yamaha. Le premier pilote Yamaha, c'est Valentino Rossi. Il est seulement sixième. Belle perf de Johan Zarco, qui est huitième, juste derrière un certain Marc Marquez. En revanche, c'est toujours compliqué pour Maverick Vinales. Il est treizième pour l'instant. Il avait démarré la saison en boulet de canon, souviens-toi, hein, la saison dernière. Il avait gagné les trois ou quatre premières courses et puis après, il s'est complètement effondré. Maverick Vinales, qui a prolongé cette semaine, tu l'as vu, il a prolongé deux ans avec Yamaha. Alors évidemment,
c'est une porte de fermée pour un certain Johan Zarco.
Yamaha, c'est l'écurie de Johan Zarco. Il y a l'intouchable Valentino Rossi, il y a Maverick Vinales. Comment tu le vois à l'avenir de Johan Zarco?
Écoute, là clairement, avec deux saisons signées à nouveau avec Maverick Vinales, ça veut dire, on sait qu'il est très jeune, hein, il a un petit peu connu, on va dire, un ventre mou dans sa saison l'an dernier. On l'a commenté ensemble, bien évidemment, dans cette émission Motors sur RMC. Il est bourré de talent, c'est certain. Maintenant, il va falloir qu'il fasse mieux cette année, qu'il se discipline, qu'il soit plus régulier et peut-être meilleur metteur au point. Soyons clairs aussi, parce que je pense que l'apport de Valentino Rossi, dont on ne sait toujours pas pour le moment, même s'il a proclamé, en tout cas, laisser entendre que son intention était de continuer à rouler deux saisons supplémentaires, effectivement, et donc on voit pas où il irait à part Yamaha, et on sait que si, quand il partira, a priori, il créerait son équipe, hein, son équipe satellite, son équipe privée, c'est ce qui est prévu. Alors, tu parlais de Johan Zarco, écoute, à moto, tu sais, il se passe toujours beaucoup de choses, est-ce que Rossi va re-signer d'abord, et va vraiment signer pour les deux ans, est-ce qu'il ira au bout de ce contrat, et c'est vrai qu'on voit mal Johan quitter cette équipe Yamaha, l'équipe, on le rappelle, Tech 3, hein, d'Hervé Poncharal, dans laquelle il se sent si bien. Et puis après tout, on l'a vu faire des résultats formidables et, et être aux portes d'une victoire en Grand Prix, même avec une équipe satellite. Et c'est ça qui est formidable à moto. On parlait du rôle du pilote dans le résultat. Ben, à moto, on le sait bien, c'est 80% du résultat.
Et on voulait juste terminer sur les 24 heures de Daytona. On en a beaucoup parlé dans cette émission également. Un petit point sur le classement pour l'instant. Les Acura Penske qui sont devant après la 10e heure de course. Graham Rahal qui est pour l'instant la voiture numéro 7 qui est en tête devant un certain Simon Pagenaud qui est bien classé. Et ça, ça nous fait plaisir parce qu'on l'a souvent reçu également dans Motors. Petite info, Fernando Alonso a eu des gros problèmes de frein. Du coup, il a été retardé. Le pilote F1 qui participe à ces 24 heures de Daytona.
Et oui, ça veut dire qu'effectivement, il fera peut-être les 24 heures du Mans. Merci beaucoup, Benoît. C'était un plaisir, comme toujours, de t'accueillir dans cette émission Motors. Et pour le moment, eh bien, on va passer le volant. C'est le cas de le dire à Arnaud Souk qui perd d'impatience, qui est déjà presque sanglé dans le baquet. Salut Arnaud.
Salut Jean-Luc. Salut Benoît. Salut à tous. Le volant, c'est comment on appelle ça là ? Tu sais, la cravache pour les chevaux, c'est ça ?
Oui, la cravache. Mais tu sais, normalement, les jockeys te disent que c'est pas pour frapper le cheval.
Oui, c'est juste pour le caler.
Ça tombe bien.
Ils vont avoir besoin de se caler les chevaux cet après-midi au Grand Prix d'Amérique à l'Hippodrome de Vincennes. 16h05, le Grand Prix d'Amérique, c'est le championnat du monde des trotteurs. Vous allez la vivre, cette course, sur AMC. D'ici là, on va tout vous dire des enjeux. On sera à Vincennes dans quelques petites secondes. Au programme également, la deuxième manche du slalom géant de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec, on espère, un podium à minima pour notre Français Alexis Pinturo. Plein d'autres choses. Retour sur la 20e victoire en Grand Chelem de Roger Federer ce matin. Du foot, du rugby, bref, c'est l'intégral sport. C'est parti.